Bien, ben d'abord, merci à Jean-Louis Martinan de cette présentation, de cette invitation d'abord, et puis de cette aimable présentation. Quelqu'un qui parle de tout, évidemment, c'est quelqu'un qui parle de rien. C'est un petit peu le reproche qu'on peut faire habituellement aux philosophes. Alors, par rapport à tous les savants exposés que nous avons entendus cet après-midi, celui que je vais présenter va vous sembler souvent sans doute assez trivial. Mais il faut voir que, en tant que philosophe et épistémologue et un peu historien des sciences aussi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment moins les résultats du savoir que la façon dont il se constitue, dont il se forme. Et ce que j'essaye de faire en pratiquant quelquefois cette sorte d'histoire à longue portée ou à longue durée, hein, un petit peu l'analogue en histoire des sciences de la méthode qui était développée par les historiens des annales dans le domaine de l'histoire proprement dite, c'est d'essayer sur la longue distance de faire apparaître à la fois des constantes, peut-être épistémologiques, et puis essayer de peut-être faire apparaître aussi le sens de ce qu'on fait quand on pratique des sciences, et de le faire comprendre surtout, je dirais, au grand public, hein, parce qu'il y a des gens à l'extérieur du campus d'Orsay qui, généralement, savent assez peu de choses sur les sciences et les techniques et développent du même coup une assez grande technophobie ou scientophobie, comme vous le savez. Et donc, servir de relais un petit peu à la rationalité, c'est un petit peu la mission du philosophe aujourd'hui, je crois. Alors, dans cet exposé, donc, je vais d'abord expliquer pourquoi je me suis intéressé à la météorologie. Les philosophes s'intéressent davantage, généralement, quand ils s'intéressent aux sciences, à des théories cadres, à ce que Bernard d'Espagnac, qui a enseigné ici, il me semble, appelait des théories cadres, des théories fondamentales. Et par un idéalisme propre à la profession, on ne s'intéresse pas aux disciplines d'application. Alors, pour une fois, il m'a semblé que ça pouvait être intéressant. Alors, qu'est-ce qui apparaît, je dirais, sur la longue durée quand on prend l'histoire d'une discipline, et je crois que la météorologie est un assez bon cas, depuis, au fond, ses premiers balbutiements, son origine même, jusqu'à au développement les plus récents, il me semble que ce qu'il faut quand on pratique des sciences, c'est d'abord constituer un champ d'objets. Une fois que les objets sont précisés, on va essayer de les classer. Tant qu'on n'a pas de véritablement bonne classification, il me semble que la science est encore balbutiante. Et puis, une fois qu'on a des classifications ou une classification des objets, il faut qu'on trouve des lois fondamentales, parce que le propre de la science, c'est quand même d'arriver à des prévisions. Si possible les plus précises qu'on peut, et donc là généralement on voit apparaître des théories assez lourdes qui s'efforcent de justifier l'existence de ces lois. Et puis enfin, quand la théorie fait apparaître des limites, on essaye de pallier ces limites par des instrumentations puissantes qui permettent de justement essayer de dépasser, de contourner les limites qui sont apparues du fait même de la théorie. Alors je vais essayer de raconter un petit peu tout ça, comment s'est constitué le champ d'objets en météorologie, comment petit à petit on a construit une classification des météores, et puis comment cette discipline, évidemment, qui a affaire à des réalités assez fuyantes, a dû développer à la fois des instruments théoriques, des cartes qui fixent le temps dans l'espace et qui font apparaître évidemment des éléments positifs sur lesquels on va pouvoir travailler, et puis ensuite une théorie de l'atmosphère et de la circulation de cette atmosphère qui va permettre un certain nombre de prévisions, mais aussi qui va faire apparaître un certain nombre de limites que tout le monde connaît à cause de la sensibilité des systèmes dynamiques évolutifs comme l'atmosphère aux conditions initiales. La météo, on en parle généralement avec son coiffeur ou avec son concierge, mais généralement, on ne s'attarde pas tellement sur le temps qu'il fait. Eh bien, on a tort, parce que, évidemment, la science du temps qu'il fait, c'est probablement l'une des plus importantes pour la société. D'abord, sur un plan économique, On parlait d'économie tout à l'heure dans la conférence du professeur Lallemand. Je crois que la météorologie a un impact économique très important sur la société en matière de transport, d'agriculture, d'aménagement du territoire, d'écologie, de climatologie. Elle permet d'anticiper sur les désastres donc, qui peuvent se produire, prévoir des évolutions du climat à long terme, mais aussi d'éviter donc, qu'on se trouve face à du fait des intempéries, devant des récoltes sacrifiées et donc des problèmes économiques évidemment évidents. Sur un plan scientifique, elle a permis aussi de mettre au point des méthodes donc pour fixer le temps, qui est quelque chose d'insaisissable dans l'espace, donc des cartes, de traduire graphiquement donc des évolutions. On verra apparaître à partir du XIXe siècle des théories de la circulation atmosphérique. Et puis, évidemment, essayer de prévoir ce qui va arriver, alors même que c'est assez difficile du fait des phénomènes de turbulence et de chaos déterministes qui sont apparus à partir des travaux de Poincaré et d'Adamard, notamment fin du XIXe, début du XXe siècle. Enfin, sur un plan philosophique, cette discipline oblige à dépasser, je crois, le clivage qui existe d'habitude entre les sciences pures, les sciences appliquées, et elle oblige à coordonner aussi différentes approches donc pour décrire des réalités systémiques, par exemple le système Terre-atmosphère et puis ses interactions avec les hommes. Donc c'est une bonne façon de repérer effectivement comment se coordonnent différentes disciplines. J'aurais pu prendre d'autres exemples. Cet après-midi, on a vu effectivement dans le développement ramifié et précis des sciences contemporaines, bien entendu, comment plusieurs disciplines étaient nécessairement convoquées aujourd'hui dans le développement de certains champs d'objets. Alors, d'abord, eh bien, je pars vraiment du tout début, comment la météorologie a progressivement essayé de cerner son propre champ d'objets, c'est-à-dire les météores. Alors, le mot météore, c'est un mot grec, hein, météora, ça signifie « élevé dans le ciel ». Alors le problème, c'est que élevé dans le ciel, comment essayer de mesurer, d'approcher ce qui est élevé dans le ciel, comment le situer? Alors il y a une première délimitation très grossière qui intervient avec Aristote dans un livre qui s'appelle « Le traité du ciel ». Aristote fait une grande distinction qui va être suivie pendant tout le Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. C'est entre le monde supralunaire, donc tout ce qui est au-dessus de la Lune, et puis ce qui est en dessous, c'est-à-dire le monde sublunaire. Alors le monde supralunaire, c'est le monde donc des étoiles fixes et aussi le monde des planètes et de leurs mouvements réguliers. Les étoiles fixes sont supposées être constituées donc de ce fameux cinquième élément, cette quintessence qu'on appelle l'éther. Et ce milieu, au fond, suffit à isoler cette partie supérieure donc, du ciel. Et puis, tout ce qui est en dessous, donc le domaine du sublunaire, ça va être donc le domaine du changement, du changeant, de l'incertain, donc par opposition à ce monde de régularité astronomique. Et ce domaine du changeant et de l'incertain, tout ce qui est en dessous de la Lune, donc qui se passe évidemment au voisinage de la Terre, ça va être donc le domaine des météores. C'est le domaine, je dirais, d'une façon générale, de la génération et de la corruption pour Aristote, hein, c'est-à-dire le domaine de choses changeantes, corruptibles, et disons, on dirait aujourd'hui, le monde du sexe et de la mort. Alors, cette première classification, alors cette première délimitation du champ d'objet donc, va donner ensuite lieu à une classification des météores. Cette classification va durer jusqu'au XVIIe siècle, donc c'est celle des premières météorologies, Aristote en particulier, mais il y en a d'autres, et puis même jusqu'à Descartes. Ces météorologies font apparaître les météores comme se répartissant en trois classes. Il y a d'abord, alors il y en a deux qui coïncident, je dirais, à peu près avec deux de nos classes d'aujourd'hui. Il y a les météores de type O, donc nuages, pluies, brésils, grêle, neige, etc. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les hydrométéores. Il y a des météores du type Terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui des vents de poussière, des vents de sable, chasse-poussière ou chasse-sable,
C'est ce que les Grecs mettaient sur le compte de ce qu'ils appelaient l'exhalaison sèche. Et à ce qui était supposé. Alors je m'aperçois que j'ai un micro qui a dû se détacher et ne plus être opérationnel. Voilà, merci. Alors, c'est ce que les Grecs donc mettaient au compte de l'exhalaison sèche, c'est-à-dire ce qui semblait se dégager de la terre. Hein, la Grèce est un pays chaud, il y a des phénomènes convectifs l'été au voisinage du sol, et ils mettaient cette espèce d'émanation qui semblait se sortir de la terre, ils appelaient ça l'exhalaison sèche. En gros, tous ces phénomènes sont aujourd'hui rangés dans la classe des lithométéores. Et puis alors, ils avaient une classe intermédiaire, donc qu'ils rapportaient donc à l'élément feu, et dans laquelle ils mélangeaient ce que nous appelons aujourd'hui des photométéores, c'est-à-dire des phénomènes du type arc-en-ciel, par exemple, tous les reflets, le rayon vert, etc., les phénomènes de réfraction et de réflexion. Et puis, ils mélangeaient ces photométéores avec des électrométéores, ce que nous appelons aujourd'hui des électrométéores, c'est-à-dire les éclairs, les feux Saint-Elme, etc. Et puis, alors, comme ils confondaient, évidemment, quand ils avaient du mal à situer les l'élévation des météores dans le ciel, il y avait une confusion par le haut avec les étoiles filantes, donc les météorites et non pas les météores. Et puis, pour Aristote, quelque chose comme la Voie lactée était pour lui un météore, c'est-à-dire quelque chose qui était situé entre la Lune et nous et pas du tout, naturellement, la galaxie qu'on sait. Alors, ce qui va se passer, je dirais, dans la suite immédiate, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle, c'est la constitution donc des deux nouvelles classes de météores que sont les photométéores et les électrométéores. Alors, les photométéores, ça, c'est quelque chose qui va se développer à partir de la réflexion de Descartes dans l'un des discours d'application de son discours de la méthode. C'est avec le discours de la méthode que les philosophes, portent au nu et qu'ils étudient pour lui-même était en réalité une introduction à trois discours qui, pour Descartes, étaient l'essentiel, c'est-à-dire la géométrie, la dioptrique, qui était destiné aux opticiens, et puis les météores. Et alors, dans le discours sixième de ce troisième discours, de cette troisième application du discours de la méthode, donc les météores, Descartes fait la première théorie convaincante de l'arc-en-ciel. Et c'est une occasion à la fois de se séparer du schéma aristotélicien par l'introduction de deux grandes innovations. Premièrement, montrer que les mathématiques s'appliquent à la réalité. Les Grecs et leurs successeurs immédiats considéraient les mathématiques comme une science purement spéculative. À part les théoriciens d'Alexandrie qui ont commencé, je dirais, de se situer dans le mouvement d'une physique positive, les autres considéraient les mathématiques de façon purement réflexive. Descartes va montrer, à la suite de Galilée, naturellement, que les mathématiques s'appliquent et s'appliquent au réel. Et puis, l'arc-en-ciel va être une illustration de la fameuse méthode cartésienne, donc avec ses quatre règles, intuition, division, déduction, énumération, qu'on trouve partout, y compris aujourd'hui dans la théorie des graphes. Alors, Descartes va montrer, par exemple, que l'arc-en-ciel, il n'est pas lié au ciel, c'est pas parce qu'il est dans le ciel qu'il est lié au ciel. Il provient tout simplement de la manière dont des rayons de lumière agissent naturellement sur des gouttes de liquide. Ça peut être toutes sortes de liquides, et de la façon dont ils tendent vers les yeux. Donc là, il applique tout simplement l'intuition, essayer de saisir intuitivement le phénomène, d'en développer une conception, précise. Ensuite, c'est pas la peine de considérer 36 rayons et de prendre la pluie dans son ensemble. La considération d'un seul rayon et de quelques gouttes de pluie, voire d'une seule goutte, suffit à décrire le phénomène, qui est constitué donc par deux arcs, en fait. L'un produit par une réflexion et deux réfractions, et l'autre par deux réflexions et deux réfractions, sous des angles approximatifs de 42 degrés et de 52 degrés environ, parce que c'est là qu'on reçoit le plus de rayons lumineux. Donc là, il a appliqué tout simplement la règle de division. Et voici le genre de schéma qu'on trouve donc dans le discours de la méthode, schéma général de l'arc-en-ciel, et puis grossissement de la goutte à droite. L'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un phénomène de décomposition du spectre lumineux en ses différentes couleurs. Ça peut être obtenu artificiellement par autre chose, par exemple un prisme, avec lequel d'ailleurs Descartes le compare. Et donc pour faire un arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, il faut de la lumière, il faut de l'ombre ou une limitation de cette lumière, il faut une réfraction, et une réfraction dont l'effet ne soit pas détruit par une réfraction contraire. Et fidèle à sa théorie de la lumière, qui est une théorie corpusculaire et pas ondulatoire, Descartes croit pouvoir déduire de l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel eh bien, un tournoiement plus ou moins rapide des particules. S'il y a des couleurs, c'est que les particules tournent plus ou moins vite, et donc celle qui tourne le plus vite produirait le rouge, un peu moins vite le jaune, etc., jusqu'au bleu et au violet. Donc là, il applique, je dirais, la règle de déduction. Enfin, il essaye de rendre compte des irrégularités qu'on rencontre parfois dans ce météore. Alors, si l'arc n'est pas totalement demi-circulaire, ben, c'est probablement qu'il y a du vent qui fait osciller les gouttes de pluie, qui induit des déformations. S'il arrive qu'on voit un arc inversé avec les cornes en haut, c'est probablement qu'il est réfléchi, par exemple par la mer ou un plan d'eau. Et il suggère pour finir que, partant de grêle mêlée de pluie, la réfraction donc des grêlons bien ronds, bien transparents, étant plus forte que celle de l'eau, aux deux arcs-en-ciel de pluie peut se surajouter un arc-en-ciel visible beaucoup plus grand que les deux autres, tandis que donc son frère jumeau, beaucoup plus petit et d'intensité beaucoup plus faible, se trouve dissimulé. Donc on a des schémas de ce genre dans le discours sixième des météores. Et puis alors, cette variation possible donc des réfractions en fonction de la densité donc du milieu qui est traversé par les rayons, lui suggère de passer de la nature à l'artifice. Donc il imagine une invention qui permettrait de faire apparaître des signes dans le ciel en utilisant donc diverses fontaines comportant des liquides de réfraction différentes. De l'eau de vie, des huiles, des liqueurs, etc. Et ces fontaines donc autoriseraient, combinées ensemble, la production de figures dans l'espace, enfin tout un spectacle lumineux qui pourrait, dit-il, impressionner des foules. On pourrait faire des croix dans le ciel, apparaître la Vierge, enfin, etc. Alors, à travers toute cette réflexion, c'est dégagé donc progressivement l'idée des photométéores. Et cette classe va être bientôt rejointe par une autre, c'est via la découverte de l'électricité, donc l'existence des électrométéores. Descartes, comme beaucoup encore au XVIIe, croyait encore en l'existence donc d'une exhalaison sèche de la Terre à côté de l'exhalaison humide, et qui aurait été responsable des phénomènes de type feu, c'est-à-dire l'éclair, la foudre, les feux Saint-Elme, etc., qui seraient des sortes d'irritations de l'air. Et cette théorie a commencé d'être combattue à la fin du XVIIe, où on a commencé à découvrir, de mettre en évidence les phénomènes électriques. Le physicien allemand Otto von Guericke, en particulier, donc invente une machine pour produire de l'électricité statique. Elle est faite donc d'un globe de soufre ou de verre traversé par une tige qu'on pouvait faire tourner avec une manivelle et qui était capable de se charger d'une électricité qu'on pouvait ensuite décharger en la touchant. Alors c'est le point de départ donc de nombreuses expériences tout à fait inoubliables. J'ai pas trouvé la machine de von Guericke, mais enfin il y en a une qui était pas très qui est une évolution de celle-ci, c'est la machine de Ramsden qu'on trouve, je dirais, qui apparaît un siècle plus tard. Et alors on se connecte à ces machines et par exemple on subit donc des décharges électriques, alors sur n'importe quoi, y compris sur les lèvres. Je crois que l'expression baiser électrique vient de là d'ailleurs. Au 18e, On voit apparaître l'ancêtre des piles modernes et des accumulateurs, c'est la bouteille de Lyde. La Benollet, donc professeur de physique, perfectionne d'abord l'invention de von Guericke, et puis Peter von Mücherbrook invente donc cette fameuse bouteille de Lyde, donc flacon de verre rempli d'eau ou de grenaille de plomb, dont les surfaces internes et externes étaient revêtues de feuilles de métal, donc on appelle des armatures, produit ce premier accumulateur qu'on a d'ailleurs l'idée de connecter donc à d'autres pour obtenir naturellement un stockage d'électricité plus puissant. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Parce que ça va avoir des retentissements en météorologie. Il y avait tout le problème des orages et de la foudre. Alors, Descartes, par exemple, reproduisait encore donc au XVIIe des théories très anciennes comme la théorie de Sénèque concernant le tonnerre. Le tonnerre était censé se manifester quand des nuages plus lourds et plus élevés donc tombaient sur d'autres qui étaient placés plus bas. Et dans ce contexte, donc l'air qui était contenu entre les deux nuages était comprimé par cette chute soudaine, et donc cet air chauffait, donc produisait un grand dégagement de chaleur, d'où résultait la lumière de l'éclair et le bruit du tonnerre. Alors cette théorie évidemment complètement erronée va être remise en question donc à partir du moment où on commence à connaître l'électricité. Ça commence à peu près à partir du milieu du XVIIIe siècle. Donc la Benollet, qui était un physicien de l'époque, avait été frappé par la ressemblance entre la foudre et les étincelles produites en laboratoire, et il avait dressé une liste de leurs similitudes. Et on connaissait en particulier les marins à l'époque sur les navires qui avaient observé ce qui se passait pendant les orages au sommet des mâts. Ils connaissaient l'effet de pointe qui fait que donc des objets pointus ont de la difficulté à se charger en électricité, au contraire de la facilité à décharger les corps chargés. Les pointes attirent le fluide électrique, disait-on à l'époque. Et la lueur bleuâtre d'ailleurs qui accompagnait ces phénomènes rappelait les feux Saint-Elme qu'on pouvait observer. Alors Franklin a eu l'idée d'utiliser donc cet effet de pointe pour vérifier le caractère électrique des nuages orageux. Et il a suggéré une expérience qui a été réalisée par plusieurs Français. Peut-être qu'il l'a jugée dangereuse, donc il s'est abstenu de la faire lui-même. Mais toujours est-il que Dalibard et Coiffier, enfin il y en a eu plusieurs, aux alentours des années 1750, à Marly, Dalibard et Coiffier, l'abbé Roulet, ont tiré des étincelles, donc d'une pointe dressée vers les nuages. Pendant un orage, donc... Ailleurs, on a utilisé des cerfs-volants, par exemple. Et alors, on a inventé comme ça le paratonnerre. Alors, à partir du moment où on a inventé le paratonnerre, on a voulu mettre des paratonnerres partout, donc des chapeaux paratonnerres, parapluies paratonnerres. On a même dessiné des paysages avec paratonnerres. Enfin, une légère paranoïa s'est emparée de la société. Enfin, toujours est-il qu'à travers cette histoire, finalement... à la fin du XVIIIe siècle, le champ d'objets de la météorologie est bien délimité et on a une classification. On a des hydrométéores, donc la pluie, la neige, la grêle, grésil, etc. On a des lithométéores, brume sèche, chasse poussière, chasse sable, tempête ou tourbillon de poussière et de sable. On a les photométéores. Alors qu'on sait de mieux en mieux distinguer, qui sont à la fois des effets de diffusion optique par les nuages et l'atmosphère inférieure, donc c'est l'arc-en-ciel, le halo, la couronne, la gloire, les irisations, etc. On a des effets de diffusion et de réfraction de la lumière par l'air lui-même, donc les phénomènes de scintillation, tremblement, rayons verts, teintes et rayons crépusculaires. Donc tout ça constitue les photométéores. Et puis on a les électrométéores qu'on sait également subdivisés. Il y a des décharges discontinues, donc les phénomènes liés aux éclairs, à la foudre, au tonnerre, etc. Et puis il y a des décharges continues, comme les feux Saint-Elme ou les aurores polaires, qui d'ailleurs prouvent qu'Aristote n'était pas complètement dans le faux quand il avait du mal à je dirais, à distinguer les météores des phénomènes astronomiques, puisque les aurores polaires résultent de, on le sait maintenant, de l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique terrestre. Bon, alors, on a le champ d'objets, on a les différentes classes d'objets. On va essayer de prévoir le temps. Alors, pour les conditions de la prévision, ben, ça suppose là aussi toute une démarche et différentes étapes. Avant le 19e siècle, avant la naissance de la thermodynamique en particulier, on ne comprend pas bien le mécanisme des vents et on ne peut pas le comprendre. On ne comprend pas bien la circulation générale de l'atmosphère. Et donc, il est impossible que la météorologie puisse faire des prévisions, exactes ou pas d'ailleurs. Pour pouvoir faire des prévisions et des prévisions fiables, il faut d'abord la notion de pression atmosphérique. Il faut des méthodes de cartographie synoptique, une organisation en réseau qui permet de collecter toutes ces données. Ça va venir progressivement. Au XVIIIe siècle, d'abord avec Borda et Lavoisier, et Brand aussi, qui fait les premières cartes météo. Et puis, surtout au XIXe siècle, avec, je le montrerai, quelqu'un comme Le Verrier, hein, qui était astronome de formation, mais chef du service météorologique. Et puis, aux États-Unis, Mathieu Fontaine-Maury, qui jouait un rôle très important dans le développement de la météorologie maritime. Et puis, il faudra une théorie de la circulation de l'atmosphère, alors qui va progresser en différentes étapes. Je vais essayer de raconter, enfin, du moins, de présenter quelques aspects. Et puis, enfin, il faudra un progrès de la physique des systèmes dynamiques et surtout des moyens informatiques puissants pour arriver aux prévisions qui sont celles d'aujourd'hui et peut-être de demain. Alors, très rapidement, la pression atmosphérique, tout le monde connaît l'histoire, je pense. En Italie, dans les années 1640, donc les fontainiers de Florence constatent qu'il n'est pas possible, au-delà d'une certaine hauteur, de l'ordre à peu près d'une dizaine de mètres, donc d'extraire de l'eau d'un puits, de la faire monter dans une fontaine. Et il y a beaucoup de fontaines à Florence, on aime qu'elles soient assez élevées. Alors la physique aristotélicienne, alors en vigueur, repose sur deux postulats qui sont censés expliquer le phénomène. Un, le monde est plein, et deux, la nature est hors du vide. Alors, c'est l'idée que l'eau ou tout autre corps, donc, doit nécessairement se précipiter dans les corps creux qu'on utilise. Mais les Florentins, au XVIIe siècle, constatent qu'au-delà de 10 mètres de hauteur, eh ben, la nature n'a plus horreur du vide, apparemment. Alors, on pose le problème à Galilée, qui n'a pas beaucoup d'idées là-dessus. Donc, comme quand on n'a pas beaucoup d'idées, il donne le sujet à un étudiant. Alors, il le donne en l'occurrence à un certain Torricelli. Alors, Torricelli, lui, il a des idées et il explique que, évidemment, si l'eau monte dans les tuyaux des fontainiers de Florence, c'est pas parce que la nature est hors du vide, c'est parce qu'on l'y contraint, autrement dit parce qu'il existe une force donc qui entraîne le liquide dans le tuyau, un peu comme une pompe aspirante. Ici, on commence à voir apparaître d'ailleurs des pompes aspirantes au XVIIe siècle. Alors là, il y a une force qui s'exerce sur l'eau et qu'il attribue à la pression de l'air. L'air a un certain poids et il exerce une certaine pression, contrairement à ce que pensait Aristote, parce que Aristote avait... C'est l'une des rares expériences qu'il ait faites. Il ne faisait pas d'expérience, Aristote. Mais l'une des rares expériences qu'il ait faites, malheureusement, il a essayé de peser l'air. Et alors, il a pris un sac d'air et il a pesé l'air dans l'air. Et naturellement, il a constaté que l'air pesait aucun poids. Bon. Alors, tout ça a induit, évidemment, une longue erreur dans la physique qui s'est terminée en 1644, quand Torricelli donc, a conçu une expérience très simple, donc destinée à vérifier l'hypothèse que l'air avait un poids et qu'il exerçait une pression. Et il a décidé d'utiliser donc du mercure liquide, qui est 14 fois plus dense que l'eau, et d'en remplir donc un tube fermé à l'une de ses extrémités, de le retourner dans un bassin. Et il a constaté, ce que tout le monde sait, que le niveau du liquide donc descend jusqu'à une hauteur d'environ 76 cm, c'est-à-dire environ 1/14 des fameux dizaines de, enfin, de la fameuse dizaine de mètres d'eau au-delà desquels l'aspiration se faisait plus dans les fontaines. Alors Torricelli en a conclu donc dans les deux cas, donc c'est la pression de l'air qui équilibre la colonne d'eau ou la colonne de mercure, et que ça signifie donc que l'air a un poids, qu'il peut exercer une pression, que le vide peut exister dans la nature, hein, puisque rien ne peut remplir le sommet du tube retourné. Alors c'est le point de départ, ça n'a l'air de rien tout ça évidemment, mais ça induit toute une grande révolution sur le plan des idées, parce que par exemple tous les grands philosophes du XVIIe siècle, hein, à part Pascal, ils pensent tous que le monde est plein. Là, il va falloir constater qu'il y a du vide dans la nature, et donc le système aristotélicien qui avait commencé de s'effondrer avec Galilée, cette fois-ci, il est complètement jeté à bas. Ce qui est contesté également, c'est donc le caractère plein continu du monde. Pascal, qui reprendra en particulier la conception de Torricelli, donc remet en question. Ça va permettre donc l'avènement d'une météorologie scientifique prévisionnelle qui va d'abord reposer sur un unique instrument, le baromètre. Et avec le baromètre, on va pouvoir accéder à une explication quantitative des vents, donc des mouvements de l'air résultant d'une différence de pression. Alors voici le premier baromètre qui avait été imaginé et construit par l'anglais Hooke, qui était assistant du physicien Boyle en 1665 à Oxford. C'est un principe extrêmement simple, hein, et vous avez une espèce de canne, un long tube à mercure recourbé, dont la colonne donc pèse sur une espèce de cylindre flottant à la surface libre intérieure du mercure, et ce petit cylindre est relié à une poulie par un fil tendu par un contrepoids, et sur cette poulie se trouve fixée une aiguille donc qui se déplace sur un cadran. Donc quand la colonne de mercure subit les variations de la pression atmosphérique, eh bien la position de l'aiguille est évidemment modifiée sur le cadran. Alors on a la pression atmosphérique, on a un instrument pour la mesurer, et ce qu'il va falloir faire, c'est maintenant, c'est des relevés, et puis à partir de là, des cartes. Alors une météorologie vraiment scientifique va naître dès la fin du XVIIIe. C'est donc une époque pré-révolutionnaire où Borda et Lavoisier vont faire un certain nombre d'observations systématiques, donc des pressions un peu partout en France, et ils font les constatations suivantes. Premièrement, les variations barométriques sont successives. Deuxièmement, elles ne sont pas périodiques. Alors ça nous paraît évident, mais il fallait encore montrer que ce n'était pas un phénomène effectivement sui generis. Donc ce phénomène n'a pas d'autonomie propre, et donc à partir de là, ils essaient de voir à quoi c'est lié, et ils montrent que c'est lié à la force et à la direction des vents. Alors ces pressions, elles manifestent un changement permanent, donc ça veut dire que l'atmosphère est toujours en déséquilibre, et si on veut naturellement essayer de voir ce qui se passe, il va falloir inscrire ces variations de l'atmosphère sur des cartes, et cette idée est présente dès cette époque. Alors des cartes de quoi ? Ben, on va en faire de toutes sortes. Humboldt, par exemple, dans ses observations sur le climat du Pérou, c'est quelque chose qui figure dans son livre en deux tomes, Voyage dans l'Amérique équinoxiale, va être à l'origine du concept de ligne d'égale température. Donc indépendamment des variations barométriques, on va également faire des cartes d'isotherme. Et puis Brand, qui est professeur à Breslau en Allemagne, étudie le temps de l'Europe de 1783, et à partir d'une série de relevés, il essaye d'inscrire donc les changements successifs qu'il relève. Et il va dresser alors des lignes d'égale pression, isobare, des lignes d'égale précipitation, alors qu'on hésite à désigner isoïette ou isoplète. Et puis, un peu plus tard, même un siècle plus tard pratiquement, Hildebrandsson et Tesserink de Bort, qui sont deux météorologues célèbres, traceront des cartes donc en reprenant les différents relevés de Brand, et ils révéleront évidemment l'intérêt de toutes ces observations. Voici le type de carte qui, je dirais, ressemble déjà... fait déjà penser aux cartes qu'on trouve aujourd'hui en météorologie. Alors, il faut des observations, il faut des relevés. Pour qu'il y ait des relevés, il faut qu'il y ait une structure, évidemment, concrète, matérielle, qui permette de l'existence de ces relevés. C'est l'époque des pré-révolutionnaires, enfin des années 1760-80. C'est une époque où on va commencer à assister au développement des communications rapides. Donc, le télégraphe de Chappe est inventé à cette époque-là. La convention révolutionnaire voit tout de suite l'intérêt de ce système de transmission, qui va d'ailleurs être perfectionné, devenir un télégraphe électrique à partir de Samuel Morse, milieu du 19e siècle. Et donc, c'est la condition pour que puissent s'établir de véritables services météorologiques, ce qui apparaît au milieu du 19e, à peu près, je dirais, dans tous les pays. En tout cas, c'est l'époque où en Angleterre et aux États-Unis, on voit publier les premiers bulletins météorologiques. Alors en France, le service météorologique va subir l'impulsion de Le Verrier, qui en 1853 donc est appelé à la tête de l'Observatoire de Paris. Et il y a un événement qui va servir ces objectifs. Le 14 novembre 1854, la France est en guerre contre la Russie en Crimée, et il y a une violente tempête qui se produit, qui anéantit 38 navires et 3 vaisseaux de guerre français, dont un certain Henri IV, qui était le fleuron de la flotte à l'époque. Alors, Le Verrier télégraphie partout pour obtenir des informations météo sur cette journée, et il obtient 250 réponses, et à partir de là, il arrive à reconstituer donc la trajectoire de la tempête. Et il parvient à convaincre donc les autorités, qui jusque-là lui avaient refusé toute espèce de crédit, que s'il y avait eu un réseau météorologique mondial, on aurait pu éviter la catastrophe. Et dès lors, donc, il va travailler à la constitution d'un tel réseau et il aura les crédits. Il fait la carte donc du désastre. La météorologie maritime va beaucoup se développer aussi sous l'impulsion d'un météorologue américain qui s'appelle Matthew Fontaine Maury. C'est un ancien officier de marine, et pendant près d'une vingtaine d'années, 1844 à 1861, il collecte une masse de données sur l'Atlantique Nord à partir de l'étude des journaux de bord des navires. C'est véritablement un travail de fourmi. Alors, il note la direction des vents, la nébulosité, l'état de la mer, les températures, etc. Et il dresse un véritable quadrillage de l'océan par carreaux d'environ 5 degrés de latitude et de longitude. Alors, on se dit, mais c'est complètement fou, et ça va servir à quoi? Eh bien, ça va amener des bénéfices considérables, parce que les tempêtes, quand même, il y a une certaine régularité, ça se produit à peu près toujours aux mêmes endroits. Alors, la carte de Maury, elle a permis, par exemple, d'éviter les grains et les tempêtes à de nombreux navires. On le prouve en voyant l'amélioration des transports. On gagne 50 jours, par exemple, sur le trajet New York-San Francisco en passant par le Cap Horn. Sur des trajets très longs comme Sydney-Londres, on gagne environ 100 jours en suivant les conseils de Maury, donc c'est-à-dire en passant à l'aller par le Cap de Bonne-Espérance et au retour par le Cap Horn. Et on a essayé de calculer le bénéfice, donc on parlait d'économie tout à l'heure, que Maury avait fait réaliser au commerce international, on estime à 50 millions de dollars de l'époque, ce qui est tout à fait considérable. Bon, alors, on a la pression atmosphérique, on a les relevés, on a le réseau, on a des observations, etc. Il manque des théories. Ben, les théories vont venir. Elles vont venir à travers les progrès dans la connaissance de l'atmosphère, qui vont être dues à la conjonction de 3 facteurs, essentiellement, complémentaires. D'abord, on va inventer le ballon, donc avec le ballon, et puis par la suite les ballons sondes, évidemment, on va pouvoir aller voir, on va pouvoir faire des relevés dans la haute atmosphère. On va assister au développement d'une physique de l'atmosphère, et puis on va voir naître donc une théorie de la circulation atmosphérique qui va naturellement bénéficier du développement de la thermodynamique. Bon, très rapidement, donc, quelques dates sur les aérostats. En 1783, on s'élève à 2000 mètres, donc avec les frères Montgolfier. Quelques 20-25 années plus tard, Gay-Lussac et Biot montent à 7000 mètres. Et un peu plus d'un siècle plus tard, donc, Picard atteint la stratosphère, c'est-à-dire 22000 mètres. Aujourd'hui, évidemment, on a des ballons en polyéthylène, on a des radiosondes, on a des satellites, évidemment, qui nous donnent accès aux très hautes altitudes. Alors, au début, l'idée, c'était que plus on monte, plus la température descend. Et on situait le zéro absolu environ vers 50 km d'altitude. Et puis, à la fin du 19e, suite donc aux différentes montées en ballon, on sait que vers 11 km, la température cesse de descendre et qu'elle se stabilise environ vers moins 55 degrés. Et on distingue alors donc ce qui est au-dessous, c'est-à-dire ce qu'on appelle la troposphère, de ce qui est au-dessus, la stratosphère. Et puis, à partir de 1923, et suite à des observations donc, sur les météorites, sur les étoiles filantes, on remarque que la densité de l'air donc, correspond à une couche chaude au-delà de 55 km, et donc on en déduit l'existence de turbulences dans la haute atmosphère. Et on finit par découvrir donc, l'existence d'un minimum de température vers 80 km environ. Alors tout ça, ça finit par dégager quatre couches de l'atmosphère, donc ce qu'on appelle la troposphère, jusqu'à environ 11 km, avec donc la tropopause à 11 km, la stratosphère de 11 km à 55 km, on a la stratopause, la mésosphère de 55 km à 80 km, on a la mésopause, et puis enfin au-dessus, la thermosphère ou ionosphère, donc au-delà de 80 km. La composition de l'air étant à peu près uniforme, donc jusqu'à 80 km, ce qu'on appelle l'homosphère, et au-delà, donc elle subit une variation rapide, l'hétérosphère, après quoi donc on atteint la protosphère, enfin les lieux où les protons, les électrons sont libres suite aux dissociations des molécules sous l'action des ultraviolets, ce qui commence d'ailleurs à partir de 20 km, mais qui naturellement prend une grande extension de là. Dans la seconde partie du 19e, donc, c'est le moment où se développe la thermodynamique avec Carnot, Clausius et puis surtout Boltzmann à partir des années 1870 et surtout 1895, publication des leçons sur la théorie des gaz. Alors on comprend qu'il y a une machine, une sorte de machine météorologique, hein, et que cette machine, c'est une machine thermodynamique avec deux sources. Une source chaude, donc qui est la chaleur du soleil accumulée au niveau des tropiques, et puis une source froide, donc les régions polaires. Et entre les deux, ben, on a une sorte de cycle de Carnot, c'est-à-dire que de la chaleur est transportée de la source chaude à la source froide, une moitié par les océans environ, une moitié par l'atmosphère. Seulement 2% de cette énergie étant la source des vents à la surface de la Terre, ce qui est déjà suffisant. Enfin, suffisant pour faire avancer les bateaux à voile et puis pour provoquer déjà des tempêtes importantes. Alors, la question générale devient, au fond, comment concevoir la circulation de l'atmosphère et le système général des vents autour de la Terre ? Alors, il y a eu des théories de la circulation des vents dans l'histoire. Elles se sont succédées donc à partir de 1686. Je ne parle que des plus, je dirais, enfin des moins folkloriques. La première qui a été proposée et qui mérite d'être retenue, c'est celle qui a été fournie par l'astronome anglais Edmond Halley. Donc c'est l'inventeur ou disons le redécouvreur de la comète, enfin qui porte son nom. Qui était connu en fait dans l'Antiquité déjà. C'est lui qui fournit la première explication plausible des vents. Pour lui, les vents, ce sont des flux d'air, donc un air assez froid et dense, qui est dirigé des régions froides vers les régions chaudes, où l'air est plus léger, où il s'élève. Alors comme il s'élève, ça fait de la place, et ça fait de la place pour l'air qui vient. Alors c'est ainsi qu'il explique, par exemple, les alizés, hein, ce que les Anglais appellent « trade winds », c'est-à-dire les vents du commerce, dont le souffle est régulier et naturellement a facilité les transports maritimes en faisant donc converger de l'air des latitudes tropicales vers l'équateur. Alors voilà la première carte que Halley a proposé des vents et des alizés et contre-alizés. Bon. Un siècle plus tard, environ, un peu moins, 80 ans, le juriste anglais George Hedley a complété cette explication Premièrement, alors il prend en compte la rotation de la Terre et il explique que cette rotation provoque ce qu'il appelle une déflexion, donc un changement de direction des vents. Alors, par ailleurs, il y avait une question qui se posait dans la théorie d'Halley, c'est où est-ce qu'il va l'air qui s'élève des régions chaudes. Bon. Alors, Hadley propose la première explication globale de la circulation générale de l'atmosphère, donc en supposant que cet air chaud qui s'élève au niveau de l'équateur, il se dirige donc en altitude vers des latitudes plus élevées, où là, il étant refroidi, il retombe à la surface. Et donc ça fait une circulation de ce genre. L'équateur étant au centre, les courbes sont les tropiques. Et puis alors du fait de la rotation de la Terre, il y a des circulations fermées sur les côtés. Au début du 19e, les physiciens Charles et Laplace vont établir donc les équations mathématiques qui rendent compte de ces mouvements de l'air. Vers 1835, le physicien Gustave Coriolis va montrer qu'un mouvement donc sur un corps fluide en rotation, comme le vent ou de l'eau, est source d'une accélération apparente dans une direction perpendiculaire au déplacement. Donc c'est la fameuse force de Coriolis. Par la suite et tout au long du 19e, on va voir apparaître de nombreux schémas de circulation générale de l'atmosphère. Je ne les ai pas tous décomptés. Edward Lorenz, qui a fait l'histoire de ces théories de la circulation, en donne beaucoup d'exemples. Il y a d'abord celle de l'allemand Heinrich Dove en 1837 qui décrit les mouvements inverses de rotation que suivent les vents de tempête dans les deux hémisphères. En 1859, William Ferrel, donc, qui était un instituteur américain, complète le schéma de circulation de Hadley en montrant que, aux latitudes tempérées, une partie du flux qui retombe de la haute atmosphère tropicale se dirige vers des latitudes plus élevées. Il aboutit à un régime de circulation atmosphérique qui est divisé en trois zones. La cellule de Hadley aux latitudes tropicales et équatoriales, avec les alizés et les contralizés. Une cellule inverse, dite cellule de Ferrel aux latitudes moyennes. Et puis une cellule polaire, où l'air froid s'écoule du pôle vers les latitudes moyennes, dans les basses couches de l'atmosphère, avec un courant de retour donc en haute altitude. En 1860, le Hollandais Buzy Ballot énonce la loi qui porte son nom, qui dit que lorsqu'on tourne le dos au vent, la plus basse pression est à gauche, la plus haute à droite. Fin du 19e, le Norvégien Wilhelm Bjerknes et son fils Jacob, ainsi que certains de leurs collaborateurs, développent le concept de masse d'air et de front météorologique, en montrant l'importance donc de ces éléments pour la météorologie des latitudes tempérées. Et puis, on arrive donc dans l'ère des ballons sondes et des avions météo, donc dans la première moitié du XXe siècle. Du fait de l'existence des ballons sondes et des avions, on va pouvoir donc étudier les masses d'air des altitudes plus élevées et on mettra en évidence l'influence de ce qu'on appelle les courants de jet, hein, c'est-à-dire les vents puissants d'altitude qui influencent considérablement les perturbations dans les zones tempérées. Et puis, dans les années 40, donc les Américains Charney et Eady vont donner une formulation théorique à peu près satisfaisante donc des instabilités de la circulation d'ouest aux latitudes moyennes. À l'échelle de la planète, la mécanique de la circulation atmosphérique peut se traduire grossièrement... Oui.
Excusez-moi de vous déranger, je dois prendre un piano dans cette pièce.
Ah, bon.
Je vous interromps pendant 10 secondes.
Je vous en prie.
Merci.
Donc c'est la notion d'équilibre géostrophique qui va se dégager. Il y a une mécanique de circulation de l'atmosphère à l'échelle de la planète qui se traduit grossièrement donc par un équilibre entre l'accélération de la force de Coriolis et puis la résultante des forces de pression. C'est ça qu'on appelle l'équilibre géostrophique. Et l'existence de cet équilibre géostrophique explique que certains phénomènes, comme par exemple le phénomène des cyclones, sont tout à fait irréductibles. Les cyclones sont des bouffées énergétiques qui participent de cet équilibre et qui viennent donc compenser un régime de force qui autrement, au bilan, hein, présenterait un déficit. Donc c'est quelque chose de tout à fait impossible à évacuer. Alors on arrive à la météorologie dans ses aspects les plus contemporains, et donc vers les, je dirais l'époque des véritables prévisions. L'histoire des théories de la circulation de l'atmosphère et les progrès donc dans son explication ont pu montrer que cette atmosphère, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un système dynamique évolutif, c'est-à-dire un processus temporel dans lequel le futur dépend d'une façon tout à fait déterministe du passé. Alors ce type de système physique avait été étudié mathématiquement dès le début du XXe siècle, en particulier par des mathématiciens français comme Poincaré et Adamard, et puis ensuite, bien entendu, par l'école russe, de Lyapunov à Kolmogorov, et par l'école américaine, Birkhoff, Arnold, Smale, enfin par quelques disciples français lointains de Poincaré, comme René Thom en particulier, ou David Ruel. Alors ces mathématiciens ont développé des méthodes d'étude des systèmes dynamiques qui sont devenus classiques. On étudie aujourd'hui l'évolution d'un système dynamique non pas dans l'espace réel mais dans ce qu'on appelle un espace de phase, c'est-à-dire un espace à plusieurs dimensions qui est formé par généralement des coordonnées de position et de vitesse des éléments du système. Alors pour des systèmes simples comme le pendule où l'espace de phase n'a que deux dimensions, on connaît à long terme évidemment le comportement du système. Celui-ci tend vers un point fixe, c'est le pendule qui s'amortit tout simplement, ou bien il tend vers un cycle limite s'il est auto-entretenu. Pour des systèmes plus compliqués, et des espaces de phase de dimension supérieure à 2, évidemment le système peut tendre vers des configurations géométriques quelconques, ce qu'on appelle des attracteurs, qui peuvent prendre des allures diverses et notamment évidemment présenter des instabilités internes. Alors en ce cas, pour une petite perturbation des conditions initiales, ce que Adamard appelait un problème mal posé, c'est-à-dire un problème dont la solution varie beaucoup pour de petites perturbations des conditions initiales, eh bien le système peut suivre à long terme des trajectoires très différentes, et c'est évidemment ce que Lorentz a appelé le fameux effet papillon. Alors, face à ces phénomènes qui limitent évidemment la prédiction, les météorologistes ne tombent pas en extase, ils ne se croisent pas les bras, ils essayent de surmonter la difficulté. Alors, les solutions permettant de surmonter autant que possible ces problèmes posés à la prévisibilité de l'évolution du système atmosphérique, elles reposent évidemment sur des approximations de plus en plus fines des états de l'atmosphère et par l'utilisation de moyens informatiques puissants. Je dirais que dans l'histoire, pour aller vite, il y a eu trois périodes successives et trois types de modèles utilisés. Un premier type de modèle qu'on appelait modèle barotope, qui est dû à Charnay. Les mouvements de l'atmosphère étudiés donc seront essentiellement des mouvements horizontaux, donc tous les mouvements verticaux sont négligés. L'atmosphère est considérée comme un fluide incompressible. L'hypothèse générale, c'est que sur une surface de pression constante, la température est constante. Et on va étudier un seul niveau de pression, qui sera un niveau moyen, donc à peu près 500 hectopascales. On va prendre en compte trois paramètres seulement, la vitesse des molécules, les changements de direction, les phénomènes de dilatation ou de contraction. Alors avec, cette idéalisation de l'atmosphère, on a construit un modèle qui a fonctionné de 1950 à 1962 sur des zones de plus en plus larges de l'hémisphère nord et qui permettait évidemment d'assez mauvaises prévisions, enfin, prévisions à un jour ou à deux jours. Ensuite, on a fractionné l'atmosphère en couches. Et donc, c'est le modèle Barrow-Klein. De 1960 à 1970, donc, on a décomposé l'atmosphère en plusieurs couches de pression. D'abord, trois couches, 400, 700 et 900 hectopascales. Et puis, à partir de 70, on l'a décomposé en six couches. Et c'est ce qu'on a appelé le modèle Schumann. Évidemment, ça donne une meilleure représentation de l'atmosphère. Ça permet de prendre en compte des paramètres nouveaux, l'humidité, l'influence des reliefs, etc. Et avec ça, on atteint une prévision à 4 jours. Et on arrive donc à la situation actuelle où, grâce à des modèles plus précis, une couverture satellitaire, évidemment, plus importante, des outils informatiques beaucoup plus puissants. L'atmosphère est décomposée en 4 millions de boîtes et on atteint une prévision actuellement qui est de l'ordre de 5 jours. Si on parvient à améliorer les données sur les conditions initiales encore, On atteindra une possibilité de prévision environ à 10 jours, et il semble que une prévision à 15 jours, soit qui est actuellement hors d'atteinte, mais qui pourrait éventuellement être atteinte si on y met le prix, ça constituera, je dirais, la limite absolue de ce qu'on peut faire, en tout cas dans le cadre des connaissances qu'on a, dont on dispose actuellement. Bon, je m'achemine donc vers ma conclusion. Quatre points qui résument l'ensemble de ce que j'ai essayé de dire. La météorologie ou science des météores, donc, elle a réussi à repérer, à classer des objets et des phénomènes, donc, dont les apparitions, les formes étaient assez capricieuses, hein, presque inconsistantes. Hein. Pensons au vent, pensons aux nuages. On a une classification des nuages en particulier qui a été faite d'ailleurs, dont le noyau a été fait au XVIIIe siècle et qui n'a pas beaucoup varié depuis, sinon qu'elle s'est un peu ramifiée. Donc on arrive à fixer même l'insaisissable. Deuxièmement, la météorologie, donc par un certain nombre de méthodes de type graphique puis informatique, a réussi à fixer le changement et les circulations, finalement à simuler, à reproduire pour mieux comprendre et pour prévenir. Et donc le chaotique, les phénomènes turbulents se trouvent même pris en compte. Troisième point, la météorologie a permis de tisser tout autour de la Terre des réseaux transfrontières. Les précipitations ne s'arrêtent pas sur les frontières. En ce sens, elle a sans doute servi la paix, ça c'est autant sinon plus que la guerre. On dit quelquefois que la géographie sert à faire la guerre, c'est un des thèmes d'Yves Lacoste, mais la météorologie, elle, à mon avis, sert à faire la paix aussi. Et puis elle a contribué donc à rapprocher les hommes, parce qu'ils sont affrontés aux mêmes éléments, quel que soit le pays. Enfin, la météorologie déploie, je trouve, une représentation holistique du monde, peut-être c'est pas le bon mot, mais enfin elle nous aide à comprendre, je dirais, ce monde comme un ensemble de flux réticulés, entrelacés, dans des systèmes de causalité assez complexes et qu'il s'agit de démêler. C'est pas toujours très simple. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Non, j'ai plus de temps du tout. Sinon, j'aurais parlé du phénomène El Niño, qui est un phénomène qui, j'irais, manifeste de façon assez démonstrative, je dirais, l'existence de ces intrications. C'est-à-dire, à la fois, c'est un phénomène au départ, j'irais, météorologique, mais qui a des conséquences à la fois économiques et des conséquences également sociales. On réussit aujourd'hui à le mettre en évidence à la fois avec un satellite qui a été lancé à cet effet donc par le CNES de Toulouse, qui s'appelle Topex Poséidon, qui met bien en évidence la variation du niveau de l'océan qu'engendre ce déficit des alizés qui est à l'origine du phénomène El Niño. Et ce phénomène donc a des conséquences évidemment sur la pêche, sur l'alimentation, sur l'économie des côtes du Pérou en particulier. Bon, voici quelques éléments bibliographiques pour finir, pour lesquels je n'insisterai pas. Merci beaucoup.